Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au début de la guerre en Ukraine, dans les reportages sur l'exil des femmes et des enfants ukrainiens et le rapatriement des Français, il a parfois été question de couples qui venaient d'avoir un enfant en Ukraine grâce à une mère porteuse, puisque ce pays autorise le recours à la GPA, la gestation pour autrui. Chez Code Source, on s'est demandé comment ces hommes et ces femmes ont vécu la naissance de leur enfant dans un contexte si particulier. L'une d'entre elles, Laura Courtade, 29 ans, a reçu Ambre Rosala pour Code Source, chez elle, dans le sud-ouest, dans les Hautes-Pyrénées.
Laura Courtade habite une jolie maison à Artigmi, un petit village près de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, avec son mari Julien. Quand j'arrive chez elle, je remarque tout de suite l'immense drapeau ukrainien qu'ils ont accroché sur la façade de leur maison.
Bonjour. Je me suis permis d'entrer avec le drapeau, je me suis dit qu'il ne faut pas me tromper.
Voilà, c'est ici. Allez-y.
Merci beaucoup.
Nous nous installons à la table du salon et je remarque tout de suite qu'elle parle beaucoup avec les mains. Elle me présente sa petite Victoria, qui vient de fêter son premier mois après sa naissance en Ukraine pendant la guerre.
Par rapport à ce qu'elle a vécu, je m'étais dit, ça va être un bébé stressé, le moindre bruit. Ben, tout le contraire. C'est un bébé très, très calme. Ben, enfin, vous voyez. Le bruit, ben non, ça la perturbe pas du tout. Je suis agréablement surprise, ouais.
Laura est née en 1992 dans les Hautes-Pyrénées, où elle grandit avec son petit frère et leurs parents. Sa mère est couturière et son père livreur pour une entreprise de plomberie. Laura me raconte qu'elle a une enfance et une adolescence très heureuses et qu'après le bac, elle ne veut pas quitter son département et trouve du travail à la mairie de Tarbes. Quand elle a 20 ans, elle fait des examens gynécologiques parce qu'elle a l'impression que quelque chose ne va pas.
Tout simplement, je n'avais pas de règles, donc bon, au bout d'un moment, on a commencé à s'inquiéter. Et puis, donc, on m'a diagnostiqué, c'est le syndrome MRKH. Ou Rokitansky, on peut l'appeler de deux manières, qui engendre une absence totale de l'utérus. Je n'ai pas d'utérus, mais j'ai quand même des ovaires. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque bon, j'avais pas de règles, mes copines avaient toutes leurs règles. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais de là, ce qu'on m'annonce que je n'ai pas d'utérus, ça a été un peu le choc. Ça a été dur à encaisser, mais après, j'étais tellement bien entourée par mes proches que je me suis vite relevée, puis il faut avancer dans la vie. Enfin, à l'époque, je m'étais dit, il y a pire, quoi. Enfin, c'est pas un cancer, j'allais pas en mourir.
Laura se dit que si plus tard elle veut avoir des enfants, elle adoptera. Et un jour, quand elle a 23 ans, elle rencontre Julien.
J'étais invitée pour ses 18 ans par le biais d'une ancienne amie à nous qui me l'a présentée. Et puis voilà, on a appris à se connaître. Bon, après, on a un écart d'âge, on a 6 ans d'écart. Donc au début, bon, lui avait 18 ans, j'avais 23 ans. Ça n'a pas été trop facile, mais on a appris à se connaître. Et, et puis ça a fonctionné.
Julien est ouvrier agricole. Ils emménagent ensemble. Et 3 ans après leur rencontre, ils décident de fonder une famille. Comme Laura ne peut pas tomber enceinte à cause de son syndrome, ils s'informent sur l'adoption.
Moi, de mon côté, je me suis un peu renseignée. On a parlé avec un couple qui avait essayé d'adopter et qui nous a expliqué que c'était très, très, très long et très compliqué. Donc, on a un peu laissé tomber cette idée-là parce qu'on s'est dit, bon, en soi, l'adoption, c'est très beau, mais c'est un parcours très stressant. Donc du coup, je me suis orientée de mon côté, j'ai fait mes recherches grâce aux réseaux sociaux sur la GPA en Ukraine. J'ai parlé avec beaucoup de personnes ayant eu recours à la GPA. Et puis quand j'ai eu toutes mes infos, j'en ai parlé à mon conjoint qui a, bon, au début, il était pas trop favorable puisque malheureusement, on a beaucoup d'a priori sur les pays de l'Est en France. Il me disait, ben non, l'Ukraine, ça craint. Et puis, il a fait ses recherches également de son côté. On a rencontré tous les deux des couples. On s'est rendu compte que ça s'était très bien passé. Et puis voilà, on s'est lancé.
En décembre 2020, Laura et Julien contactent une agence de gestation pour autrui, basée en Ukraine, car c'est illégal en France. Et trois mois plus tard, en mars 2021, ils se rendent à Kiev, où ils sont accueillis par Tatiana, leur coordinatrice. Pour que leur futur enfant ait leur gène, les ovocytes de Laura et le sperme de Julien sont prélevés. Ils rentrent en France et en juillet 2021, l'agence les contacte pour leur annoncer qu'Anastasia, leur mère porteuse, a été inséminée. Julien et Laura vivent les premiers mois de grossesse à distance et apprennent qu'ils vont avoir une petite fille qu'ils décident d'appeler Victoria.
Anastasia nous donnait des nouvelles, mais très régulièrement. Elle filmait le ventre, enfin, quand elle bougeait, elle filmait son ventre, elle nous envoyait des photos. Mais on avait quand même un besoin physique de la rencontrer. Donc voilà, en novembre 2021, on y a été, on a assisté à l'échographie, on l'a rencontrée. Ça a confirmé ce qu'on pensait d'elle. Hein. Quelqu'un de très positif, très souriante, qui a pris soin de notre fille. Hein. Moi, j'ai vu qu'Anastasia, c'était une personne, contrairement à moi, qui suis assez angoissée, hyperactive, entre guillemets, elle est posée. Et moi, j'étais rassurée de savoir que ma fille grandissait pendant les 9 mois dans cette ambiance-là, quoi. Zen.
L'accouchement est prévu le 22 mars. Pour éviter que le bébé n'arrive prématurément, on fait à Anastasia un cerclage qui aide à maintenir le col de l'utérus fermé. En février 2022, Laura et Julien voient depuis la France les tensions monter en Ukraine, où se trouvent Anastasia et leur bébé.
On voyait à la télé les tensions, mais bon, on s'était dit, bon, après les médias, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Et donc, jusqu'au 21 février, où Tatiana, notre coordinatrice, donc notre agence, nous envoie un message pour nous dire que le cerclage allait être retiré à Anastasia le 28 février. Et beaucoup de mon entourage me disent « Mais une fois que le cerclage est retiré, tu peux être sûre qu'elle va accoucher dans les heures qui suivent. » Et Tatiana nous l'a confirmé, donc elle nous a conseillé de venir assez rapidement. Donc le 23 février, on a pris la décision de prendre un vol. Donc sans le savoir, je pense qu'on a une bonne étoile, on a pris, et heureusement, l'un des derniers vols.
Laura et Julien arrivent à Kiev le 23 février au soir, la veille du début de l'offensive russe dans le pays. Le mari de Tatiana vient les chercher à l'aéroport et les accompagne dans leur appartement, prêté par l'agence de gestation pour autrui, dans le centre de Kiev.
On trouvait la ville assez déserte. Et ce qui nous a interpellés, quand on est monté à l'appartement, on a croisé une famille, un monsieur avec sa femme et ses enfants, avec des bagages dans la main, comme s'ils quittaient la ville. Et ça, on s'est regardé avec Julie, on s'est dit... C'est bizarre quand même, pourquoi ils quittent la ville? C'est bizarre. Puis bon, on s'est dit, bon, peut-être qu'ils, je sais pas, ils partent en vacances. Donc voilà, après, on a été à l'appartement et à 6h du matin, le lendemain, ben, on a été réveillés par une détonation. Et puis, 8-10 minutes plus tard, un autre bruit assez sourd. Et là, j'ai vu le flash, donc vite, on s'est réveillés. On a appelé Tatiana qui nous a dit de prendre le strict minimum. Donc on a pris les affaires pour la petite. Nous a dit attendez en bas, mon mari va venir vous chercher. Donc on est descendu, on était en pyjama, enfin moi j'étais en pyjama. Hein. Donc on avait évacué le plus rapidement possible l'immeuble. On a senti l'odeur de la poudre. Donc là j'ai dit waouh, là on est vraiment, là c'est vraiment la guerre. Et donc on a attendu en bas et là c'était comme dans un film quoi, les gens ils couraient vers les voitures avec leurs sacs à main, leurs animaux de compagnie et nous on attendait, on devait attendre et là je dirais 20 minutes après un missile qui nous passe au-dessus de la tête. Là ça a été très très stressant avec le bruit sourd, je l'ai encore en tête, ouais, le missile nous est passé au-dessus de la tête. Bien sûr les gens bah, criaient vite vite, ils s'abritaient sous le hall de l'immeuble, jamais on n'aurait pensé vivre ça quoi. je me dis, waouh, je vais mourir, mais il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre. Mais d'un autre côté, je me dis, non, on peut pas rentrer. Et la petite, elle est pas encore née. Julien m'a raisonné, il m'a dit, non, on part pas, on rentre pas, il y a la petite. Bon, il m'a vite raisonné, vite, voilà, j'ai pensé à la petite. Mais au début, je vous avoue que, ouais, je voulais rentrer. Parce que bon, j'avais peur de mourir, même lui, enfin tout le monde avait peur de mourir.
Le mari de Tatiana les récupère et les emmène chez lui. Là-bas, il rencontre Manuela et Loïc, un autre couple de Français pris en charge par l'agence, qui viennent aussi d'arriver en Ukraine pour la naissance prochaine de leur fille. Comme ils logent dans un immeuble dans un quartier plus calme de la ville et moins dangereux, Manuela et Loïc leur proposent de venir habiter chez eux le temps que les filles des deux couples naissent, et Laura et Julien acceptent.
On mangeait moins, on essayait de garder de la nourriture, l'eau pareil, on buvait pas beaucoup, donc on était très fatigués, moralement et physiquement. La journée, voilà, on voyait quand même le jour à travers la fenêtre, puis il y avait la télé, on était occupés, mais à la tombée de la nuit, c'est là que c'était très angoissant, très anxiogène, parce que c'était à partir de là qu'il commençait à... où on entendait les détonations. Donc c'était très anxiogène la nuit, très long. On a dormi dans la cuisine parce qu'on nous conseillait de dormir le plus loin possible des fenêtres. Et donc après, au bout du troisième, quatrième jour, on a découvert qu'on avait le bunker au sous-sol. Et là, on descendait à partir de 7h le soir, quand on commençait à entendre la sirène. On mangeait, puis on descendait au sous-sol.
Le cerclage d'Anastasia est retiré le 28 février. Et deux jours plus tard, le 2 mars au matin, Anastasia prévient Laura et Julien par WhatsApp qu'elle commence à avoir des contractions.
À 17h, je lui envoie un message sur WhatsApp, je lui dis « Comment tu vas ?» Et là, elle nous dit « J'accouche, ça devrait arriver dans la nuit. » Waouh ! Alors là, c'était la panique, la joie, l'excitation. Mais bon, je lui dis « Bon, non, ça, elle va naître dans la nuit. » Et 18h10 exactement, je prends mon portable. Et là, je reçois un message d'Anastasia qui me dit « Victoria est née, elle pèse 2,5 kg. » Alors là, là, ça a été la victoire pour nous. La victoire, même si on l'avait pas encore dans nos bras, on commençait à voir le bout du tunnel.
Comme la situation est de plus en plus tendue à Kiev, l'hôpital accepte que Victoria ne reste pas sous surveillance à la maternité pendant 3 jours, comme c'est habituellement le cas, et Laura et Julien vont la chercher dès le lendemain de sa naissance.
J'étais très angoissée, Julien aussi, d'aller la chercher à la maternité. On avait une demi-heure de route. Donc c'est Tatiana avec son mari qui nous ont accompagnés. Tous les 200 mètres, on était arrêtés par les soldats ukrainiens, les checkpoints, ils appellent ça là-bas. On devait montrer nos passeports et puis regarder si on n'était pas des Russes. Ils nous ont fait ouvrir le coffre de la voiture. Mais tous les 200, même les 100 mètres. Donc on est arrivé à la maternité, on a vu Anastasia avec... Victoria dans les bras, bon là, bien sûr, on s'est effondré, on s'est prise dans les bras, je l'ai remerciée comme j'ai pu, bon, en français, bon, elle a compris, hein, malgré la barrière de la langue. Mais vite, l'angoisse a pris le dessus sur la joie, parce que juste après que je l'ai prise dans mes bras, on a entendu une détonation. Tatiana nous a dit, vite, vite, il faut qu'on parte, là, et ça, c'est très frustrant pour nous de ne pas avoir pu passer beaucoup plus de temps avec Anastasia. On aurait aimé échanger avec elle, au moins rester une heure avec elle, quoi. Et donc, on est retourné à l'appartement. Le couvre-feu était à 19h. Il était 18h50. On n'était toujours pas à l'appartement. Et il faut savoir là-bas que si à 19h, au-delà de 19h, on est dehors, on est considéré comme des ennemis. Et heureusement, à 18h55, on a réussi à rentrer dans notre rue. Vite, on s'est garé. On est monté à l'appartement. À 5 minutes près, on était dehors en plein couvre-feu.
Le lendemain, Laura et Julien rejoignent Manuela et Loïc, dont la fille vient aussi tout juste de naître. Ensemble, ils contactent l'ambassade française en Ukraine pour leur demander quand ils vont pouvoir rentrer en France. Et le lendemain, ils reçoivent un message leur annonçant qu'un bus avec une quinzaine de places doit partir pour la Pologne dans 15 minutes. Laura, Julien, Manuela et Loïc rassemblent rapidement leurs affaires et se dirigent vers le convoi. En tout, une trentaine de personnes, ukrainiens et étrangers, essaie de monter dans le bus. Et Laura a peur de ne pas réussir à partir.
Chacun voulait sauver sa peau, ouais, ce qui est normal. Hein. Les gens nous bousculaient. Nous, on avait des... Victoria, elle avait 2 jours. Les gens, ils s'en fichaient qu'il y avait des bébés de tout jeunes. Hein. Donc, c'était chacun l'instinct de survie. Au début, le chauffeur commençait à dire les femmes et les enfants d'abord. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Enfin, je lui ai pris la main à Julien, je l'ai tiré pour qu'il vienne à côté de moi, par force. Mais ça a été dur parce qu'on voyait les gens qui n'ont pas pu monter, pleurer dehors. Enfin, ouais, c'était frustrant. On avait l'impression de piquer la place de quelqu'un, quoi.
Laura et Julien, et l'autre couple de Français, arrivent à monter dans le bus. Anastasia, leur mère porteuse, décide de rester en Ukraine. Et ils prennent la route pour un long trajet vers la Pologne, pratiquement sans s'arrêter.
Ça a été compliqué pour les petites. On n'aurait pas eu les bébés, bon, on se serait adapté. Mais avec des bébés de 2 jours, ça a été compliqué. Ben, les bibis, on ne pouvait pas chauffer le bibi. Les désinfecter, on n'a pas pu, donc on s'est débrouillé. On mettait de l'eau, on balançait l'eau à travers la vitre du bus. On a dû changer des couches dans le bus. Et j'ai eu confiance en moi, j'ai pas eu le choix, et j'ai fait comme je l'ai ressenti, et comme je le ressentais. J'ai vu que Victoria ne pleurait pas, était bien, donc je me suis fait confiance, et puis tout s'est bien passé.
Laura, Julien et Victoria passent la frontière polonaise. Puis ils prennent l'avion jusqu'à Paris, puis le train, pour rentrer enfin chez eux près de Tarbes. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'Anastasia, c'était un peu votre fée. Pourquoi ?
Ben, c'est une fée parce qu'elle a veillé sur Victoria pendant les 9 mois et puis parce que je veux garder le côté féerique de l'aventure qu'on a vécue. Anastasia, c'est comme une sœur pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, elle nous a permis d'avoir un bébé et que maintenant, bon, on s'en fiche, on n'a plus de nouvelles. Pas du tout, moi, ça, on est malade de savoir qu'elle est encore en Ukraine. Je lui ai proposé, je lui ai dit comment je pourrais t'aider, je peux t'envoyer de l'argent, des vêtements. Et elle m'a répondu non, non, elle m'a dit j'ai besoin de rien. Le fait que tu m'envoies des photos de Victoria et de vous voir heureux, ben, ça me donne de la force. Ça me permet de tenir mentalement. Donc je lui envoie des photos de Victoria tous les 2-3 jours. Je le fais avec grand plaisir.
Ambre, malgré son bonheur, Laura Courtade a un problème aujourd'hui. Victoria n'a pas de papier.
Oui, aujourd'hui, Victoria n'a toujours pas de papier parce qu'en fait, Laura et Julien n'ont pas pu récupérer son certificat de naissance en Ukraine, tout simplement parce que les mairies sont fermées à cause de la guerre. Ils ne savent toujours pas quand et comment ce problème va pouvoir être réglé. Et Laura m'a dit que ça commençait à les inquiéter parce qu'en fait, sans ça, c'est impossible pour Laura d'adopter sa fille et qu'aujourd'hui, au regard de la loi, elle n'est rien pour Victoria, alors même que sa fille porte ses gènes.
Cette naissance par GPA, combien est-ce que ça leur a coûté ?
Alors, elle m'a dit que ça leur avait coûté 45 000 euros. C'est un montant important parce qu'il y a tous les frais médicaux. Il faut payer la mère porteuse, l'agence, etc. Et Laura m'a raconté qu'ils avaient dû faire un prêt pour pouvoir payer tout ça.
Dernière question, est-ce que Laura compte raconter un jour à Victoria comment elle a été conçue et comment elle est née ?
Oui, elle m'a dit qu'elle n'allait rien lui cacher. Elle est en train de réfléchir à préparer un album photo pour retracer tout le parcours de la GPA, avec bien sûr des photos d'Anastasia. Et Laura m'a dit qu'elle aimerait bien que plus tard, quand Victoria aura 7 ou 8 ans, ils puissent retourner tous les trois en Ukraine pour montrer à Victoria où elle est née, si la situation s'est apaisée dans le pays, bien sûr.
Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, @CodeSource, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.